Nous entendons actuellement Radio Résistance.
Bonjour tout le monde, vous êtes à l'écoute de Radio Résistance et plus précisément de l'émission Voix de l'Héritage. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que Radio Résistance a décidé de diversifier un petit peu ses programmes. Donc en plus de l'émission de Tanguy que vous connaissez bien et qui se déroule sur un ton résolument jeune et impertinent, de nouvelles émissions, dont celle-ci, vont voir le jour. Voilà, donc à la différence de l'émission de Tanguy intitulée Jeune Résistance, l'émission Voix de l'Héritage s'adresse à un public peut-être plus varié et abordera des thèmes plus sérieux, peut-être plus théoriques. Alors, je ne m'engage par contre sur aucune régularité, mais j'essaierai de faire en sorte que les émissions ne soient pas trop espacées. Je me présente en deux mots, Thibaut de Chaffet. J'interviens ici en tant que directeur de la revue L'Héritage, qui est un magazine nationaliste, abordant des thèmes assez variés, que ce soit politique, philosophique, historique, lié à la culture au sens large, à l'identité ou autres informations pratiques. Donc, comme son nom l'indique, cette émission est couplée en quelque sorte à la revue L'Héritage. Et elle abordera elle aussi des thèmes très variés, toujours avec en tête l'esprit critique. Voilà, si on a choisi le mot d'héritage, eh bien c'est parce que nous nous considérons d'abord comme des héritiers. Et pour nous, la notion d'héritage est au cœur de la démarche nationaliste. Au sein de cet héritage dont on se réclame, eh bien, l'esprit critique a toujours eu une part très importante. Alors, le thème de cette émission, c'est le darwinisme, plus précisément la révolution darwinienne. Alors, je vous présente tout de suite, sans plus tarder, mes deux invités pour cette première émission. J'ai le plaisir de recevoir Laurent Blosy, journaliste et linguiste, auteur de deux ouvrages.
Oui, effectivement, deux ouvrages. Donc, le premier étant « Le mystère de la race des géants ».
Très bon bouquin.
La lumière du créationnisme. Et le second, dont je viens de paraître, les extraterrestres, il s'agit du New Age.
Voilà, bon, on en parlera un peu plus en détail peut-être à la fin de l'émission.
Mot, effectivement, d'une réputation des thèses qui concernent l'écologie.
Deuxième invité, Paul Thor, militant nationaliste, nous venons tout droit du Berry, directeur de Feu, la revue L'Épervier, et par ailleurs fondateur et parolier du groupe musical Insurrection.
Bonjour à tous.
Voilà, donc le thème qui a été choisi aujourd'hui, c'est celui de la révolution darwinienne, parce qu'en effet, nous sommes dans l'année des anniversaires. Darwin est né il y a exactement 200 ans, 1809, et son livre majeur est sorti, lui, en 1859, donc il y a 150 ans.
Oui, donc à cette occasion, il est intéressant de savoir en France ce qui est en fait l'anniversaire de Darwin.
Oui.
Dans ce cadre, on peut remarquer que le grand orient de France, donc la plus grande obédience française de la franc-maçonnerie, a fêté cela tout au long du mois de mai 2009 en organisant une porte ouverte. Il y a donc une grande exposition mettant en lumière tous les travaux du Charles Darwin.
On avait remarqué aussi effectivement, Paul, que juste avant, une année avant, la GVNF, la Grande Loge Nationale de France, qui a également fait une journée porte ouverte contre le créationnisme. Donc c'est dire que même si Darwin est fortement critiqué, si ses théories ne font pas l'unanimité, quand bien même elles sont soutenues par les plus grands de ce monde, ça c'est fortement
défendu très énergiquement en effet. J'ai parlé de révolution darwinienne tout à l'heure parce que, à mon avis, c'est un sujet dont on parle très peu ou trop peu dans nos milieux. On parle souvent des différentes révolutions qui ont bouleversé l'ordre du monde, à commencer par la Révolution française et parfois même un petit peu avant avec la Réforme ou la Renaissance. Par contre, on parle très peu de la révolution darwinienne, alors qu'elle a eu, comme on le verra tout à l'heure plus en détail, des conséquences colossales dans tous les domaines, politiques, économiques, philosophiques, scientifiques.
Oui, et on ignore même la portée effectivement de la mise en effectivement de l'évolutionnisme et du darwinisme, puisque c'est tout l'intérêt aussi d'avoir écrit un livre sur les extraterrestres, parce que voilà encore un sujet qui n'est absolument pas prouvé, pour lequel des scientifiques se portent garant de choses qu'ils n'ont absolument pas vues, de choses qu'ils n'ont absolument pas découvertes. Et on est, en 200 ans après, encore dans la continuité de l'évolutionnisme et du darwinisme. Donc voilà quelque chose qui est tout à fait intéressant, puisque sans vouloir effectivement faire leur sujet, hein, la théorie extraterrestre va vers une nouvelle religion. Le darwinisme, lui, de son côté, est né à partir de Galilée. C'est qu'à ce moment-là, effectivement, l'Église, avec les actes de l'armée, me semble-t-il, avait condamné les thèses de Galilée qu'on n'avait absolument pas pu trouver sur l'héliocentrisme, la rotation de la Terre, etc. Là-dessus, on a bâti toute une légende sur Galilée emprisonné, ce qui est archi faux. Galilée n'a absolument pas été emprisonné. Et ça, donc, c'était en 1616. Donc on peut dire quasiment que deux siècles après, Darwin n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe, mais il arrive effectivement parce que les garants de la foi, les garants de la science, qui étaient effectivement elles-mêmes, ont pris l'eau, d'une manière scientifique, on peut imaginer des choses comme ça. Et Galilée, lui, Darwin, pardon, lorsqu'il arrive en 1800, enfin, à partir du 19e siècle, il arrive avec une théorie qui est nouvelle, qui n'est absolument pas prouvée, mais il est financé.
Je voudrais juste un petit peu t'arrêter. Oui. La théorie nouvelle, ça, c'est pas vraiment vraiment nouvelle.
Ouais, justement, c'est une question intéressante.
Voilà, donc effectivement, Darwin arrive à une époque. Est-ce que c'est vraiment sa théorie qui est nouvelle, ou est-ce que c'est enfin, je parle effectivement, comme tu disais, que vu l'état un petit peu de l'Église ou des. Il y a un peu des gens qui vivaient à l'époque, qui ont permis à ce que cette théorie puisse être rendue, soit mise au vu et au su du grand public, et soit, quelle est une noblesse. Parce qu'en fin de compte, cette théorie, on va voir plus tard, il y avait déjà des illustres ancêtres comme les livres, qui avaient déjà posé les jalons.
Oui.
De ce que nous on appelle le darwinisme.
Oui, on va revenir tout à l'heure sur la genèse de cette théorie évolutionniste. Et tu parlais de Galilée, hein, Laurent, tout à l'heure, et ça me faisait penser justement à l'historiquement correct. Aujourd'hui, il y a un historiquement correct extrêmement lourd, qui peut coûter très cher en frais de justice et en années de prison. Il y a aussi un politiquement correct omniprésent, il y a même un religieusement correct, et il y a aussi un scientifiquement correct.
Oui, qui est tenu par des groupes, je ne sais pas si on peut les qualifier de para-maçonniques, puisqu'on était parti effectivement pour parler de la franc-maçonnerie, du moins l'introduction, mais on peut parler par exemple des Brights, de certains groupes comme ceux-là, qui sont des associations puissantes qui ont pignon par exemple au CNRS et dans d'autres domaines, où ils ont une analyse effectivement sur les choix des scientifiques. Je pense que c'est peut-être aussi le cas du British Museum, hein, qui n'est pas n'importe quoi, puisque c'est lui qui avait en charge de démontrer l'inauthenticité effectivement du lacet de Turin, et qui en même temps possédait un des crânes tout à fait important. Il s'agissait du crâne de l'homme de Pigeon. Pendant 40 ans, il était complètement impossible de sortir le crâne de cet homme, de cet homme appartenant au chaînon manquant entre l'homme et le singe, les scientifiques avaient demandé effectivement que cet objet, hein, cette relique, devrais-je dire, soit expertisée. Ça a mis 40 ans, et lorsqu'effectivement on a regardé d'un peu plus près, lorsqu'on a sorti des vitres effectivement le crâne de l'homme de Pisa, on s'est rendu compte qu'il ne s'agissait ni plus ni moins que d'une mixture d'un mélange de dentition des singes, des mâchoires d'hommes, etc. etc. Et pour boucler, on s'est rendu compte que à l'intérieur du crâne, il y a même une trace digitale et des posters. Donc, quand on voit effectivement que les British Museum étaient réticents pour sortir cette relique, ce sont ces mêmes personnes qui n'ont absolument pas peur, avec toutes les magouilles possibles, de démontrer, ou de vouloir tenter de démontrer que celle de Turin est un faux tout simplement parce que nous sommes effectivement maintenant. Et c'est là où Darwin trouve toute sa force, c'est il faut à tout prix démonter la religion, il faut à tout prix démontrer que tout ça sont l'apparition du Christ, que c'est une légende. Voilà quoi s'est versé effectivement la science moderne. Et la science moderne, effectivement, arrive bien avant Gallica, bien avant Darwin. Darwin, pourrait-on dire, en quelque sorte, c'est le petit-fils de Galilée. Mais nous pouvons aussi penser que depuis que le démon existe, il a fait des progrès. Donc Galilée, dans cet acharnement hein, de démontrer l'héliocentrisme, dans cette continuité, effectivement, est arrivé à Darwin. Et derrière tout ça, effectivement, des groupes ultra puissants qui ont de cesse effectivement de vouloir marquer leur empreinte.
Oui, dans ce que je viens de dire, il y a une chose qui me paraît vraiment assez importante, c'est effectivement sous couvert de science, sous couvert de vieux hommes avec une barbe blanche et une belle veste, on peut, comment dire, on veut nous faire croire que voilà, puisque c'est une académie de science, puisque ce sont des grands scientifiques, eh bien, ils ont forcément raison, ils savent, enfin, c'est vraiment forcément rigoureux, c'est forcément scientifique. Mais pas du tout, hein, ça depuis, en plus, surtout en Angleterre, depuis, de toute façon, la fondation de la fameuse Royal Society, hein, qui a été ni moins que l'antichambre de la franc-maçonnerie moderne, ils ont eu le fait, en fait, d'utiliser le décorum, les apparats de la science, pour effectivement, pour des buts beaucoup moins avouables et beaucoup moins scientifiques.
Ouais. En réalité, la théorie darwinienne est là pour justifier une philosophie. Donc ils partent d'a priori, ils tentent de justifier scientifiquement.
Oui, un dogme.
C'est devenu un dogme aujourd'hui, le darwinisme. C'était une théorie, mais c'est devenu quasiment un dogme. C'est le seul qu'on enseigne, je veux dire, c'est la vulgate officielle. En ce qui concerne...
Tout à fait, puisque même dans les gens, effectivement, les professeurs sont obligés d'avaler certaines sommes de livres d'enseignement dans le darwinisme. Mais là où c'est très fort, hein, c'est que le darwinisme n'a absolument pas prouvé, démontré, alors c'est quand même le but de la science, à partir d'une observation, de démontrer l'existence d'un phénomène.
Est-ce qu'on peut peut-être redire pour les auditeurs qui viennent?
Oui, on va faire ça dans l'ordre. Je tenais un peu à remettre le darwinisme dans le contexte actuel. C'est devenu un dogme scientifique qui a de très lourdes conséquences. C'est le seul qu'on enseigne en Europe occidentale, en tout cas aux enfants, durant toute leur scolarité. Donc ils en viennent à croire que c'est un fait établi et sûr que nous défendons grosso modo du singe ou d'une espèce de primate. Voilà, donc l'esprit critique est totalement banni. Durant cette émission, on va essayer de le remettre un peu à l'honneur. On peut dire en quelque sorte, enfin, en tout cas à mon avis, que le créationnisme ou l'anti-darwinisme est un autre révisionnisme. Encore autorisé pour l'instant, donc profitons-en.
Pas trop longtemps.
Tout à fait, d'ailleurs, je prends la balle au bon lorsqu'on parle de révisionnisme, puisqu'on se rend compte que ceux qui financent les versions officielles, que ce soit en histoire, en médecine, et notamment dans l'évolutionnisme, est le même chef d'orchestre. Donc si on touche effectivement à un de ces trois domaines, et qu'on remonte à ce même chef d'orchestre, pourquoi pas ne remettre en doute effectivement le domaine médical ou celui de l'histoire. Enfin bon, c'est très important de remarquer effectivement cette connivence des versions officielles.
Oui, tout est lié de toute façon.
Mais une chose aussi qui est très importante, c'est que effectivement en France, on tolère Darwin, on ne le critique pas, mais ce n'est pas le cas effectivement de tous les pays. Puisque de manière générale, on parle des États-Unis, de la Bible Belt, mais plus près de chez nous, ça s'est passé en 2005, c'était aux Pays-Bas. La ministre effectivement de la science qui s'appelait Maria van der Hoeven, donc en Hollande, qui était ministre de la science, de l'éducation nationale et de la culture, demandait à ce qu'on enseigne le créationnisme à part égale avec le darwinisme. Et dans cette entreprise, elle a été effectivement soutenue par un professeur, un biologiste, qui s'appelle le professeur Faith Baker, qui en 2003, donc deux ans auparavant, avant 2005, donc avait été récompensé du prix Spinoza, qui est le premier prix scientifique aux Pays-Bas. Donc on voit qu'il y a des gens qui sont des gens extrêmement
compétents.
Je ne vois pas ce qu'on peut y avoir de plus compétent comme personne aux Pays-Bas qu'une personne sur la foi de Spinoza. Un ministre, Maria van der Sloan était catholique, tout à fait déclaré, était plutôt, on va dire, évangélique. Et donc ces deux personnes ont travaillé ensemble et le projet n'a pas abouti. Donc c'est à croire effectivement qu'il y a des personnes qui ont des arguments qu'on ne connaît pas, mais quand même ils ont des arguments, alors on ne sait pas lesquels puisqu'on ne les entend pas, mais quand même bien supérieurs à ceux d'un professeur et d'un ministre des Finances.
Bon, alors je propose que nous rentrions maintenant dans le vif du sujet et nous pourrions commencer par définir en quelques mots brièvement le darwinisme. Qu'est-ce que le darwinisme? Si vous deviez faire une petite présentation à nos auditeurs, qui se lance?
Pour moi, le darwinisme, plus ou moins, je vais essayer de donner une définition originale et exacte, c'est-à-dire que le darwinisme, donc, en conclusion de ce qu'on disait au début, c'est la continuité de Galilée, de choses qui ne sont pas du tout prouvées, et le darwinisme, en même temps, c'est la théorie de l'évolution des espèces. Donc, comme à ce jour, on n'a jamais trouvé... entre les espèces, on n'a jamais trouvé effectivement de chemin manquant.
Oui, c'est une des failles de cette théorie.
Oui, et en plus, lorsqu'on regarde, on dit que c'est encore un mensonge, puisqu'il y a des biologistes qui disent qu'on ne peut absolument pas prouver le rapprochement génétique de deux espèces qui de manière visuelle se ressembleraient. Donc là, c'est le cas entre l'homme et le singe. Paraît-il qu'il y aurait... beaucoup plus de différence entre l'homme et le singe qu'il n'y paraît. Et puis une différence qui est chiffrée encore en pourcentage dans la réalité, lorsqu'on parle de gènes, ça se transmet en milliards. Mmh. Donc on voit encore qu'il s'agit de masquer une réalité en jouant avec des chiffres.
Donc le darwinisme postule que les espèces que nous connaissons découlent toutes d'une même origine et que l'on peut passer d'une espèce à une autre.
Oui, ce qui est vraiment gênant encore une fois, c'est que Darwin s'appuie sur la génération spontanée. Alors la génération spontanée a été battue en brèche par Pasteur. Génération spontanée, Pasteur avait démontré ça avec la biogénèse, c'est-à-dire que tout corps vivant ne peut pas, ou cellule vivante, ne peut provenir d'une cellule morte.
Mmh. Ça justement c'est encore une des failles du darwinisme et on reviendra sur ces questions des failles
malheureusement.
On reviendra plutôt en fin d'émission sur ces questions des failles. Et pour terminer de cerner le darwinisme en quelques mots,
donc,
c'est pas Darwin qui a inventé le transformisme, mais par contre il lui a donné une certaine stature et il l'a complété avec des théories annexes. Donc, Darwin, il me semble, postule que les espèces évoluent, on peut passer d'une espèce à une autre par le fait de transformations dues au hasard,
oui,
de mutations dues au hasard, et qui seraient validées par la sélection naturelle.
Ben Paul, tout à l'heure, parlait de Lamarck. Un des points communs entre Darwin et Lamarck, c'est... tu parlais pas de Lamarck, Paul?
Non, c'était avant la mission.
C'était pas avant la mission. En tout cas, bon, Lamarck et Darwin étaient tout à fait d'accord pour parler des girafes. Hein, ils aimaient bien les girafes, visiblement, je ne sais pas pourquoi. Ils spéculaient sur le long cou des girafes. Hein. L'un était d'accord pour dire que les girafes effectivement avaient un long cou parce qu'elles avaient dû chercher de la nourriture sur les hauteurs des arbres, et l'autre, je pense que c'était Lamarck, lui pensait que les girafes au cou court ont disparu tout simplement parce que il n'y avait plus de nourriture à hauteur du sol, et donc les girafes au cou court ont disparu. Mais que je sache, encore une fois, dans les musées d'histoire naturelle, on n'a jamais trouvé de squelette de girafe au cou court. Donc voilà encore Lamarck et Darwin qui partent comme ça sur de la science-fiction. C'est pour ça, quand on parlait des extraterrestres tout à l'heure, on n'en est pas très loin. Mmh. Mais il est aussi très important, et je le répète, de faire remonter Darwin à Galilée, puisque 200 ans après Darwin, maintenant on a né effectivement aux théories extraterrestres qui sont tout aussi débiles, pardonnez-moi l'expression, mais On ne peut pas avoir de respect pour des gens qui se prétendent scientifiques et qui ne trouvent rien. La seule chose qu'ils arrivent à prouver, effectivement, ce sont les milliards qu'ils reçoivent, puisque il s'agit de reprendre encore une fois une lettre de Marx adressée à Hegel, disant qu'effectivement, les théories de Darwin pouvaient servir ses théories personnelles, c'est-à-dire ses théories politiques, et à cet effet, donc, ont été soutenus par, par Rockefeller. Sans cet argent, sans l'argent, sans le capital, Darwin n'aurait jamais pu exister, c'est un fait. Et on peut prendre le cas de son cousin, par exemple, qui s'appelle Dalton, qui était la troisième fortune au monde. Je ne sais pas s'il a laissé sa fortune dans les chemins de fer ou autre, mais toujours est-il que c'est la troisième fortune mondiale, même lui qui s'est permis d'envoyer peut-être la reine d'Angleterre. Donc ce n'était pas n'importe qui. On voit que ces gens-là, la seule vérité qu'ils détiennent, c'est celle de leur compte en banque. Et non pas effectivement de véracité scientifique, il faut le dire.
Merci Laurent pour cette mise au point. Paul, est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour concernant la définition du darwinisme?
Oui, en fait, par rapport à la définition du darwinisme, moi je voulais appuyer sur le fait que tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans la théorie officielle du darwinisme, qui est donc que les espèces qu'on vivra tous un ancêtre commun, un poisson, après
un
reptile, ensuite un singe, que sais-je, puis un homme, donc en fait c'est grâce au hasard que des mutations se seraient opérées qui auraient donc fait évoluer l'être vivant et diversifier l'être vivant. Et dans le même temps, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui dans une espèce et plus d'autres, ça aurait été à cause d'une sélection naturelle. Là, il y a vraiment un antagonisme qu'il faut souligner, c'est-à-dire que le côté qu'en fait ce serait des mutants, donc voilà, donc un poisson à qui une patte serait touchée, puis 10 000 ans plus tard se descendant une deuxième patte, pour finalement faire un reptile qui va sur la terre ferme, ça c'est donc la théorie de l'évolution, et en même temps, Darwin dit que seuls les forts survivent, et donc il y a une sélection naturelle, ceux qui ne sont pas adaptés doivent mourir. Là, il y a une contradiction majeure, parce que je veux dire qu'un mutant, par définition, il n'est pas adapté à son environnement, donc il meurt. Et c'est pas important quand même dans ce
cas. Et en plus, même à l'heure actuelle, on n'a jamais vu d'organes en mutation. Tous les organes que l'on observe sont des organes finis.
Oui, alors pas, on reviendra là-dessus vers la fin de l'émission. Quand on contredira un petit peu la théorie darwiniste d'un point de vue concret. Justement, Laurent, tu évoquais tout à l'heure Lamarck, alors on peut dire quelques mots des précurseurs du darwinisme, parce que si Darwin est le père fondateur de la théorie moderne de l'évolution, cette même théorie a eu des grands-parents et puis d'autres aïeux.
Moi, dans les précurseurs, non, faut parler de Lamarck et tout, moi, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est la filiation de Darwin. Darwin, c'est surtout le petit-fils d'Erasmus Darwin, qui est un poète britannique, qui est accessoirement un médecin. Et cet Erasmus Darwin avait donc deux qualités intéressantes. D'un côté, c'est un grand maître franc-maçon anglais. De l'autre côté, il a écrit un livre qui s'appelait La zoonomie ou les lois de la vie organique, paru en 1901, et où en fait déjà le grand-père de Darwin esquissait complètement la théorie de Darwin en expliquant un petit peu la genèse du monde d'une façon évolutionniste, mais c'était pas sans rappeler les poètes païens du style de Lucrèce ou des choses comme ça, où on nous expliquait qu'en fait c'était la nature qui avait donné naissance à l'homme, c'est pas dans les choux, mais tout presque. Et donc on voit quand même que voilà, Darwin n'est pas arrivé d'un seul coup, il y a eu quand même bien des précurseurs, et notamment son grand-père. Donc là on peut quand même fortement faire un lien, c'est-à-dire forcément le petit-fils avait lu le bouquin du grand-père, donc ça a forcément influencé
ça lui demande des choses.
Oui, ou le grand-père est fortement impressionné aussi de cette église dans les jours de bac à sable. Ça, c'est pas impossible aussi.
Et on peut dire aussi que les philosophes du XVIIIe siècle ont souvent abordé ce thème de l'évolution, la transformation des espèces, à commencer par Diderot, à mon avis, qui était le plus prolixe sur ce sujet. Par ailleurs, Benoît de Maillet, consul de France en Égypte de 1694 à 1706, c'est-à-dire encore auparavant, avait déjà proposé une théorie générale de terrestrisation des espèces marines, contraintes par le retrait des mers à s'adapter à la vie sur terre ferme. Donc cette théorie a déjà eu de nombreux défenseurs au cours des siècles, même Ovide, dans ses fameuses métamorphoses. Alors je vais revenir un petit peu sur Lamarck, parce qu'il me semble que c'est un acteur important dans cette affaire. Lamarck est né en 1744, décédé en 1829. Il était le fondateur de la chaire des invertébrés au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Il était le premier à donner à la croyance évolutionniste une forme scientifique dans son fameux ouvrage Philosophie zoologique, qu'il publia en 1809, il y a exactement deux siècles.
C'est juste après Erasmus Darwin, avec son bouquin.
Oui. Donc dans cet ouvrage, il énonce deux grandes lois explicatives pour sa théorie, pour sa croyance. Donc la loi de l'usage et du non-usage, c'est-à-dire que les organes se renforceraient par un usage intensif et s'atrophieraient par le non-usage. C'est l'exemple du coup de la girafe dont tu parlais tout à l'heure, Laurent.
Oui, ou alors on peut prendre un exemple pour faire un peu d'humour. Aux États-Unis, on a remarqué que les conducteurs de voitures ne sont pas unijambistes, pourtant, je crois que c'est dans ce pays, effectivement, où essentiellement les vitesses sont automatiques, il n'y a pas de pédale, etc. Pourtant, effectivement, voilà, le conducteur américain n'est pas unijambiste, donc c'est ce qui contredit encore la théorie de Darwin.
Non, mais quand Darwin arrive, il est toujours 100 millions d'années.
Non, mais d'une manière plus sérieuse, parce que bon, on fait un peu d'humour pour tourner en dérision ce qui n'est pas sérieux, et on a raison de le faire. Mais si on prend le train du colocante, qui est effectivement un animal marin.
On prononce aussi Célacanthe, parfois.
Célacanthe, oui. Cet animal marin existe encore. Donc, on lui donnait des millions, puisqu'on dit que, d'après l'évolutionnisme, effectivement, que la vie apparaît sur Terre à partir de... Il y a 500 millions d'années que la vie est apparue sur Terre, combien d'espèces animales, du moins, voilà. Et 2 millions d'années pour l'Homo erectus, donc pour le premier homme. Et comment tu dis avec sa prononciation ?
Célacanthe.
Célacanthe, effectivement, existe encore malgré les millions d'années qu'on lui prête.
Oui, donc on l'a retrouvé au milieu du siècle dernier, et il avait très peu changé par rapport aux fossiles. Justement, c'est une belle épine dans le pied de l'évolutionnisme.
Encore une belle épine, oui, il y en a plusieurs.
Oui. Pour terminer sur Lamarck, dans les précurseurs de Darwin, en plus de sa loi de l'usage et du non-usage des organes, il invoque une deuxième loi, celle de l'hérédité des caractères acquis. Donc par laquelle il explique une progressive transformation. Et pour faire tenir debout cette théorie, il a besoin de très longues durées, et c'est là que les géologues évolutionnistes vont rentrer en jeu. On va parler un peu tout à l'heure de cette histoire de durée, des temps géologiques longs. À la différence toutefois de Darwin, Lamarck demeure finaliste. C'est-à-dire qu'il voit dans les efforts par exemple de la girafe, une orientation intelligente. Donc pour lui, l'évolution n'est pas due au hasard, contrairement à Darwin, mais il y a une finalité, il y a un but.
Mais la survie, par exemple, je pense que c'est le cas de Lamarck, non ?
Oui, une certaine perfection de la nature. La nature se perfectionnerait progressivement. Donc on tombe déjà dans le naturalisme, mais pas tout à fait dans le matérialisme, contrairement à Darwin. Il n'y a pas de hasard pour Lamarck.
C'est intéressant dans ce que tu dis. On peut poser cette question, Thibaut, c'est qu'effectivement, d'après Lamarck, la nature irait en se perfectionnant. Or, pour un hindouiste, ou du moins un chrétien, ou un religieux, tout simplement, le monde était parfait dès le début. Donc on assiste encore une fois, c'est assez intéressant de le noter. C'est peut-être pas un hasard si ces gens aussi appartiennent à des groupes comme...
Bien sûr, c'est des groupes progressistes.
On se rend compte qu'au-delà de leurs idées, existe effectivement une mesure des choses, une notion qui est anti-religieuse.
Et puis c'est aussi le propre de l'idéologie. Il y a une idéologie qui est progressiste. Et donc, ils veulent, comment dire, que la nature soit comme le rivet. Ils veulent calquer,
oui,
une origine logique, une partie logique avec leur théorie.
Tout
tout à fait. Oui,
oui, l'évolutionnisme, c'est radicalement une philosophie du devenir. C'est une traduction scientifique ou pseudo-scientifique de l'idéologie du progrès dont tu parles, qu'on retrouve dans tous les domaines. Donc la croyance évolutionniste provient de cette idéologie du progrès, et elle-même, elle donne de lourds arguments, en tout cas arguments en apparence, à cette idéologie du progrès, et elle l'amplifie en quelque sorte. Oui, vous voulez peut-être qu'on dise un mot d'un des autres précurseurs importants qui a eu un rôle dans l'itinéraire de Darwin, c'est Liel, Charles Liel. Laurent, peut-être que tu peux nous en dire quelques mots.
Charles Liel, d'après c'est l'équivalent de Darwin pour la géologie. On peut dire beaucoup de choses. Moi, je me souviens d'avoir travaillé effectivement sur les datations des fils du Niagara. Et effectivement, il y avait une contradiction par rapport aux théories de Liel. C'est-à-dire que si on prenait les théories de Liel pour l'origine des fils du Niagara en tombée sur des millions d'années, sachant que Liel ne prenait pas en compte, et ça c'est un point commun entre tous les évolutionnistes, de scénarios catastrophes avant les 60 millions d'années. Donc 60 millions d'années qui correspond encore par hasard à la disparition des dinosaures.
C'est la théorie qu'on appelle actualiste. Oui. C'est-à-dire que lui, Liel, considère qu'on ne peut utiliser comme critère de réflexion que ce que l'on peut constater actuellement, c'est-à-dire des changements très lents, des changements climatiques très lents, l'action du vent, de la pluie, le gel, le volcanisme, les lents déplacements des plaques tectoniques. Et donc, s'il n'utilise effectivement que ces possibilités, on a besoin de durées géologiques très 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 longues pour obtenir les changements qu'on peut constater, qu'on peut deviner en tout cas. Donc il écarte de fait, comme tu dis, les événements catastrophistes, et notamment le déluge, qui était l'événement majeur dans la pensée, y compris la pensée scientifique, jusqu'à
remonter à 2200 ans, donc avant Jésus-Christ. Et on prend par exemple le cas du chute du Niagara, effectivement, le déluge qui a été un immense raz de marée à l'échelle planétaire a pu travailler effectivement les roches, accélérer les érosions, et c'est pour ça qu'effectivement, sur le cas des déchets du Niagara, il y a une grande contradiction entre Liel et la théorie, on va dire, créationniste ou biblique.
Oui, c'est bon, cette histoire de déluge, il faudrait qu'on y consacre une émission à elle toute seule, parce que c'est un sujet très complexe et important. C'est un mythe qu'on retrouve, un mythe au sens premier du terme, qu'on retrouve dans quasiment toutes les croyances, dans toutes les mythologies, chez tous les peuples, sur toute la planète.
Oui, c'est ça.
Et si on exclut les hypothèses catastrophistes, dont la première est celle du déluge, un déluge massif, on est obligé forcément de recourir à des périodes, à des durées longues géologiques, qui ne sont toujours pas vraiment prouvées.
C'est assez intéressant, on fait une parenthèse. Hein,
et tout est lié.
Tout est lié, on se rend compte effectivement dans la mythologie égyptienne ou indienne. Pour le cas de la mythologie indienne, par exemple, on parle de l'œuf cosmique, qui n'est ni plus ni moins effectivement qu'une reprise de l'arche de Noé, et on retrouve dans les représentations de l'œuf cosmique 8 personnages, ou quelquefois 7 personnages et un dieu. Or, dans l'arche de Noé, effectivement, il y avait Noé, sa femme, ses 3 fils et ses 3 filles. On retrouve aussi le même schéma en Égypte, avec un dieu, par exemple, qui porte une pirogue. Et on retrouve 7 personnages dans la pirogue. On retrouve aussi ce schéma dans de l'art pictural dans le sud, je ne me souviens plus l'endroit, dans le sud de la Norvège. Je ne me souviens plus du nom de la ville, ou du moins du site. Donc on voit effectivement que le déluge a été repris par même par les Chinois dans leur signe. Le déluge effectivement est repris par plusieurs cultures, sauf par effectivement les évolutionnistes et les gens qui partagent les théories de Liel.
Tout à fait. Bon, mais on ne peut malheureusement pas trop s'attarder sur ce sujet faute de temps. Mais, en tout cas, c'était pour souligner le fait que les temps géologiques très longs, centaines de millions ou milliards d'années, sont indispensables à la théorie évolutionniste, et donc c'est un point de friction majeur avec les opposants à cette théorie.
Oui, c'est très facile d'avoir des longues périodicités pour enfouir effectivement au fin fond des temps ce qu'on ne peut pas prouver.
Oui, ça donne un peu le tournis.
Ça donne un peu le tournis. Il y a une malhonnêteté encore, et comme cette malhonnêteté
est en charge de la situation, comment expliquer que c'est passé de tel cas à tel cas, de telle espèce à telle espèce.
En se basant sur les probabilités, quand on les aborde dans une perspective de centaines de millions d'années, ça peut donner penser que tout est possible.
Justement, il y a un livre à ce sujet qui est paru il y a 2 ans, de Jean-François Morel, qui est un mathématicien qui aborde Darwin sous le jour des probabilités, où il explique effectivement que les probabilités de Darwin qui peuvent tomber jusqu'à 10 exposant moins 50 ne sont absolument pas rigoureuses. C'est-à-dire qu'en mathématiques, une probabilité n'est absolument pas retenue à partir de 10 exposant moins 8. Donc Darwin est bien au-delà. Donc on voit bien que le darwinisme sous le nez de mathématiciens, ce n'est pas non plus très sérieux. Donc je ne me souviens plus du titre de ce livre, mais le nom de l'auteur, c'est Jean-François Morel, avec deux œufs. C'est assez intéressant parce qu'il aborde effectivement le darwinisme, ou l'anti-darwinisme, si on peut le définir comme ça, sous un autre jour, sous le jour des mathématiques.
Très bien. Merci Laurent Zosy de ces précisions. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur Darwin lui-même avant que l'on aborde le sujet des conséquences de sa théorie? On a fait le tour. Donc dans ce cas, je propose une petite pause musicale avant de passer à la suite de notre émission, avec une chanson qui s'intitule Le Clan, que l'on peut trouver sur l'album Chant d'Europe numéro 2 du Chœur Montjoie Saint-Denis. On se retrouve juste après.
Dans la nuit s'allume les feux de camp. Se rassemblent tous les hommes du clan pour célébrer par l'honneur de nos camps la force vive et pure de notre sang. Nous chantons pour nos frères qui sont morts dans les combats. Je guerriers intrépides et forts, ignorant la peur et le lâchement, je regarde sur l'ennemi que j'efface, le sang versé fortifie notre race, vivante race, glorieuse race. Nous chantons pour nos sources et nos bois, pour nos plaines, nos chemins et nos toits, pour notre vigne, notre blé, notre miel, pour nos randonnées et notre soleil, vivant soleil, glorieux soleil. Nous chantons pour enseigner notre loi à nos enfants, pour nos fils qui demain dans les combats, le glaive au poing sans recul et d'un pas, fidèles à nos chefs et confiants en Dieu, saurons garder la terre des nobles aïeux, nobles aïeux, nobles aïeux. Et quand l'on éteindra les feux de camp, se lèveront tous les hommes du clan pour la conquête, pour les vaincre ou mourir. De nouveau Dieu va fleurir notre avenir. Dans la vie sommeille les feux de camp, et sur le plan.
Voilà, donc vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Voix de l'Héritage sur Radio Résistance. Thibaut de Chassé au micro. Nous avions abordé le thème des conséquences assez larges du darwinisme avant cette petite pause musicale. Donc, qui parmi mes invités veut se lancer sur la question? Paul Thor, Laurent Glosy, Paul, tu as des choses à dire.
Moi j'ai des conséquences atypiques à exploser, mais après toi, avant de...
Donc par rapport aux conséquences du darwinisme, le darwinisme en fait c'est surtout pour nous expliquer, pour expliquer au bon peuple que, avant le darwinisme, la seule explication de nos origines était l'explication de l'Église, était l'explication de la Bible, et en fait tout le monde se référait, c'était quand même, même s'il n'était pas très précis, même s'il y avait encore beaucoup de travail pour les chercheurs pour approfondir un petit peu l'origine, enfin, nos origines, c'était la version admise et commune pour tout le monde. Avec le darwinisme, en fait, on veut absolument couper la science, couper la recherche, couper la recherche de nos origines de la religion. C'est la possibilité d'avoir comment dire, une origine autre que venant de Dieu, que venant de la révélation.
Oui, et puis ça réduit l'homme à de la matière, finalement, à l'état au stade d'animal.
Voilà, ça permet d'expliquer l'homme d'une façon purement naturaliste, sans l'implication du divin, mais juste le hasard. D'ailleurs, dans la film de Darwin, c'est toujours le hasard qui revient. On explique par le hasard, on explique tout par le hasard, et comme ça, on peut se débarrasser facilement du fait religieux.
Le hasard ou les probabilités qui sont mathématiquement contestables. Donc on voit encore que sur ce domaine, ils prennent l'eau. Là où c'est assez intéressant quand je vous parle de Darwin et de la religion, la première édition de l'Origine des espèces, donc publiée en 1859, Darwin ne mentionnait aucunement dans ses pages le nom de Dieu. C'est la reine d'Angleterre qui, pour la seconde édition, a fait un peu pression, donc il a daigné marquer une fois le nom de Dieu. Donc ça dénote encore le côté très
anti-religieux de son âge.
Religieux, effectivement, de son âge, mais je pourrais dire même plus. Quand on est contre Dieu, on est chez l'ennemi, on le veut ou non.
Tout à fait. Ce qu'il faut voir, à mon avis, c'est surtout que le darwinisme, c'est plus qu'une simple théorie scientifique très contestable, comme on verra un peu plus tout à l'heure, et c'est surtout une vision du monde complète, quoi. C'est une nouvelle vision du monde, un monde matériel, où, dans le meilleur des cas, la nature se perfectionne d'elle-même, c'est un peu une... Oui, c'est un naturalisme, une sorte de paganisme, et dans le pire des cas, on est dans le matérialisme pur et dur. Donc ça bouleverse radicalement la pensée moderne, l'homme est coupé de toute transcendance, ce n'est plus qu'un animal et plus apte que les autres, et il n'a plus forcément la même finalité, ni les mêmes devoirs, il n'y a plus de moralité,
là,
d'où viendraient les repères moraux, etc.
Mais c'est la conséquence de la conséquence. En fait, s'il n'y a plus de Dieu, et bien en fait, les gens ne tuent que les animaux, effectivement, on peut faire ce qu'on veut.
Quelle finalité,
quels
repères moraux.
Voilà. Donc des choses comme l'avortement ou comme l'euthanasie découlent directement de Darwin, parce qu'en fait, c'est en évacuant la partie divine de la création de l'homme qu'on peut se permettre de tuer des embryons ou alors de tuer des milliards.
Tout à fait. Mais dans un autre livre, là, pour reprendre un autre livre qui est paru, je crois, 10 ans après de l'Origine des espèces, c'est La descente de l'homme, où là Darwin parle de la descendance de l'homme par rapport au singe, et il joue effectivement sur la rhétorique, où il dit effectivement que l'animal, il prend le cas d'animaux intelligents, du moins il prête une intelligence à l'animal, ça peut être le chien par exemple, là, un chien doué, et il prend le cas du sauvage, c'est-à-dire que c'est-à-dire un homme qui n'est pas très évolué. Donc d'un côté il prend un animal très évolué, de l'autre côté il prend un homme très pas très développé on va dire, et il essaye de dire mais voilà, l'homme effectivement descend de l'animal. C'est un exercice de rhétorique qu'on retrouve encore chez les scientifiques actuels, qui n'a rien à voir avec la preuve scientifique.
Paul Thor, quelque chose à rajouter peut-être ? Les conséquences économiques éventuellement du darwinisme. Le libéralisme, comme le marxisme, se base sur la vision évolutionniste des choses.
Ah, que je trouve bien parti, là, du côté.
Ouais. Paul, il parlait d'une chose intéressante tout à l'heure sur l'avortement. C'est encore là un sujet qui est passionnant, puisqu'il s'agit d'un crime, ou je ne veux pas dire ça, d'un génocide. Hein. Effectivement, c'est, on se rend compte que une économie dans un pays ne peut marcher que si elle s'appuie sur du concret. Le concret, c'est quoi? C'est la naissance, c'est la définition d'un ordre national. Ce sont ces choses-là. Lorsqu'effectivement on sème l'anarchie, lorsqu'on ne conçoit pas effectivement l'avenir sans des enfants, l'économie qui en découle est une économie chaotique dans le moyen, dans le long terme. Et c'est ce qu'on voit à l'heure actuelle, on peut parler de complot ou de ce qu'on veut, mais sans aller jusque-là, voilà une économie qui ne fonctionne pas et qui ne fonctionnera jamais parce qu'elle ne s'appuie pas sur ce qu'il y a de concret, c'est-à-dire la natalité et la terre, c'est-à-dire le vrai travail. Mmh. Alors on peut épiloguer là-dessus, ce n'est pas bon, effectivement le sujet, mais le matérialisme, c'est-à-dire le fait effectivement de donner une origine autre que divine de la terre avec Galilée, ou de vouloir démontrer ce qui n'est pas démontrable, ou ce qu'on ne sait pas faire, c'est-à-dire l'héliocentrisme, ou avec Darwin sur sur l'évolution des espèces, on est en train effectivement d'entrer dans un monde qui est un monde de spéculation. Et on se rend compte que le monde dans lequel on vit est un monde de spéculation, ni plus ni moins, qui ne repose sur rien de concret. Et c'est là où effectivement, alors je dirais que les gens d'une manière générale cherchent des explications qui n'appartiennent pas, qui ne sont pas de normes, on va dire, c'est-à-dire de l'ordre divin ou autre, mais effectivement, si on ne va pas au-delà de ce que l'on voit, on donne des interprétations qui sont des interprétations superficielles. Mais si on veut véritablement travailler et voir les choses en profondeur, effectivement, nous sommes dans une société qui est une société matérialiste. Ce matérialisme n'est pas né effectivement de 68. Il y a eu des accélérateurs en histoire, mais il y a eu effectivement une naissance, une origine de tous nos malheurs, effectivement, qui sont à venir.
J'ai parlé tout à l'heure brièvement du marxisme, ça me fait penser justement aux conséquences politiques et philosophiques du darwinisme. Il faut voir que tous les naturalistes, c'est-à-dire ceux qui rejettent toute action d'une réalité supérieure sur la nature, sur le monde, tous les naturalistes et tous les matérialistes ont besoin du darwinisme. Le darwinisme, en fait, c'est une croyance. Ce n'est pas juste une théorie scientifique, c'est une croyance philosophique qui vient au secours et qui justifie le matérialisme. Et d'ailleurs, c'est ainsi qu'elle est née. Historiquement, c'est ainsi que c'est passé. Elle est venue en complément pour soutenir, pour défendre les théories philosophiques nouvelles.
C'est un prêtre chinois qui racontait, justement, bon, je n'ai pas le souvenir encore des noms, mais il racontait qu'effectivement, avant 49, en Chine, avant que le communisme soit l'idéologie de l'Empire du Milieu, on avait commencé à enseigner aux gens, avant d'enseigner le communisme aux gens du moins, ce prêtre avait remarqué qu'on avait commencé par l'enseignement du darwinisme.
Oui, justement, une petite anecdote à ce propos-là. Moi, j'ai appris que durant la longue marche, lors de la conquête par les communistes de la Chine, quand les troupes maoïstes entraient dans un village, la première chose que les commissaires politiques organisaient, c'était une réunion de formation devant les villageois sur le darwinisme. Ils commençaient par enseigner la théorie de l'évolution, pour préparer ensuite le terrain du marxisme et du communisme le plus dur. Tout est lié, c'est une très très bonne illustration. Le marxisme est construit sur l'évolutionnisme. C'est un matérialisme dur et à la fois illogique, qui accepte les contradictions, etc. Et c'est parfaitement dans la veine du darwinisme. Donc on peut conclure que le darwinisme a eu pour, parmi ses différentes conséquences les plus graves, le marxisme et tous les millions de morts qui sont allés avec.
C'est à fait. Le progressisme politique a besoin du progressisme philosophique sous-jacent pour pouvoir justement tenir la route.
Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur le thème des conséquences du darwinisme, où est-ce qu'on a fait le tour?
Moi, j'aurais une conséquence atypique à ajouter pour continuer Darwin, c'est-à-dire la conquête de l'espace, la recherche de vie extraterrestre. Ça a commencé donc depuis fort longtemps avec Owells, où des gens effectivement, des écrivains comme Asimov aussi, qui étaient des écrivains de science-fiction. Au début des années 90, il est tout à fait intéressant de remarquer que un des objets, ou du moins une des sondes spatiales, qui avait la charge effectivement de voir s'il y avait de la vie dans l'univers ou sur des planètes du système solaire, je ne me souviens pas bien encore, cette sonde s'appelait Beagle 2. Et Beagle, effectivement, étant le nom du bateau qui a permis à Darwin d'aller sur les îles Galapagos.
Et durant, enfin, le bateau sur lequel il a beaucoup réfléchi, il a commencé à élaborer sa théorie.
Et donc, cette théorie des extraterrestres est tout à fait intéressante parce que les gens qui soutiennent ce genre de théorie, alors qu'on n'a jamais trouvé de vie extraterrestre, que toutes les secondes volantes qui ont pu être. Je fais un résumé rapide, qui ont pu être observées, du moins dans un rapport Cometa, par des gens ou des généraux de l'armée de l'air, on a observé des choses choquantes, mais on n'a jamais observé de secondes volantes venant de l'univers. Et qui entraîne dans l'atmosphère. Ceci dit, ce qui est troublant, c'est de voir que les gens qui soutiennent les théories extraterrestres parlent de la pente thermique, une théorie des années 1850, qui effectivement donne une provenance de la cellule humaine ou de la cellule vivante, une origine donc extraterrestre, ou une origine venant de l'univers, et donc cette cellule proviendrait d'une comète. Donc ça c'est une théorie, et comme la science-fiction depuis Darwin ou depuis Galilée effectivement se chevauche avec la science, on constate que les scientifiques ou les auteurs de science-fiction sont d'accord pour dire, sans le démontrer bien entendu, c'est une mode depuis 400 ans, ils disent que effectivement la Terre pourrait être un jardin zoologique, que des extraterrestres en quelque sorte auraient ensemencé, et que nous serions non pas effectivement l'espèce évoluée d'animaux, mais l'espèce dégénérée d'extraterrestres qui, pour X raison, effectivement, pour un danger sur je ne sais quelle planète dont on n'a effectivement jamais trouvé la trace, puisque au début du siècle on disait qu'il pouvait y avoir de la vie sur Mars et sur Vénus, et ensuite effectivement un des progrès technologiques ont démontré qu'il n'y avait strictement rien.
Donc Raël, c'est un fils de Darwin en fait.
Raël, c'est, je crois, de mémoire, c'est le 66e descendant de Adam. Ah, c'est lui qui dit, c'est pas moi. Bon, ça va.
En tout cas, on est dans le.
Raël dit qu'il est dans une soucoupe volante. Or, en fait, il est né à côté de Vichy.
C'est dans une soucoupe aussi.
Oui, peut-être. Enfin, ils n'ont pas besoin de marcher à côté, on verra. Mais pour ce qui est effectivement des conséquences de Darwin, les conséquences de Darwin, effectivement, ne se cantonnent pas seulement, et malheureusement, à notre. À la surface de la Terre. Elles ont débordé effectivement à des dimensions qui sont des dimensions extra, je dirais, planétaires.
Dans ce que tu viens de dire, moi ce qui m'intéresse de souligner, c'est le côté que en fait, ce sont les romanciers, les poètes qui en fait, donc, qui précèdent les pseudo-scientifiques darwiniens, on peut dire. Hein, parce que donc, si on voit donc, la généalogie, le grand-père donc, de Darwin était connu pour être poète. Et son bouquin, c'était de la poésie. Tout comme Lucrèce, le poète antique, qui a après inspiré les Diderot et compagnie, parce que les penseurs des Lumières, à chaque fois, ce sont effectivement des poètes qui n'ont aucune capacité,
compétence
scientifique, ils inventent une origine fantasmée, et ensuite on a des pseudo-scientifiques qui arrivent avec leur blouse blanche et qui disent ah oui, ça s'est passé comme ça, et donc là c'est de la ruine, là maintenant aujourd'hui ça va être.
Pour les théories extraterrestres, c'est exactement la même chose, mais dans le domaine de la pure spéculation,
voilà, comme avec le Big Bang, comme avec toutes ces théories-là, où il est aussi intéressant de souligner, hein, puisqu'on est dans le chapitre effectivement les conséquences des organismes, donc le Big Bang par exemple a été nommé ainsi en dérision de la théorie qui a été trouvée, je ne me souviens plus du nom de malheureusement c'est le cas, mais l'instigateur on va dire, ou l'initiateur de cette théorie avait effectivement parlé du Big Bang parce qu'il lui-même ne croyait pas à sa théorie. Donc nous sommes effectivement dans une science qui
prétendue science
qui fait son ennemi sur du spéculatif, sur de l'imaginaire, mais un imaginaire qui est quand même choisi, qui est quand même dirigé, parce qu'il ne faut surtout pas effectivement retomber sur sur Dieu créateur, sur la Bible. Donc on a une imagination qui est quand même bien dirigée.
Oui, tout à fait. Alors je propose qu'on aborde maintenant le chapitre des failles et des défaillances justement de cette théorie, de cette spéculation évolutionniste. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Qui veut ouvrir le feu? Laurent Glosi, je te sens bien parti.
Sur les spéculations
évolutionnistes. Sur les failles de la théorie darwiniste. L'impossibilité.
Ce sont des... c'est l'impossibilité de réfléchir. Là, je pourrais parler par exemple un peu de mon premier livre, parce que lorsque j'ai travaillé sur les géants, j'ai dit que ce livre permettait effectivement, était un angle d'attaque idéal contre le darwinisme. Pourquoi? Donc nous disions, en préambule, on disait ça, nous disions effectivement que Darwin travaille sur les longues périodes de cité. Je répète, 500 millions d'années, ce sont les premières espèces animales, 2 millions d'années, donc c'est l'Homo erectus, et 60-70 millions d'années, c'est la disparition des dinosaures, d'un point de vue effectivement évolutionniste. Bon, les géants, c'est tout à fait intéressant, non pas parce que la Bible en parle en 17 reprises dans ses pages avec Goliath ou son frère Lamir, mais tout simplement parce que nous admettons le gigantisme partout, c'est-à-dire partout dans la faune et dans la flore, hein, mais nous n'en parlons jamais pour les hommes, nous en parlons effectivement pour les libellules. Nous en parlons pour les gorilles qui faisaient plus de 2 mètres, des, voilà, des libellules bien plus grosses que maintenant, qui avaient des tailles, une taille bien plus importante que celle qu'on peut observer le long de nos rivières. Mais pour les plantes, c'est ce qu'ils en voient de même. Mais pour l'homme, on ne parle jamais de gigantisme. On fait une impasse. Or, en fait, il y a des traces de géants de par le monde. On a même pris des photos de géants fossilisés dans des gares en Angleterre. Il y a même des tombes géantes en Sardaigne. On peut parler de comme ça effectivement de traces de géants. Il y a même un assyriologue en 1850 qui, à Gilgal Beit-Haïm, donc en Israël, a trouvé des géants à côté d'un site mégalithique qui ressemble à celui de Stonehenge. Stonehenge en Angleterre qui est très connu, mais non, je fais une parenthèse, c'est très intéressant. Le nom de Stonehenge est en Kyrgore, qui veut dire la danse des géants.
Il faudrait qu'on consacre une émission à cette
affaire des géants. Mais ce qui est intéressant, c'est l'histoire des géants. J'ai essayé de défricher
avec le rapport avec le Darwin.
C'est que si les géants ont existé, et ils ont existé, on peut effectivement débouler sur une myriade de questions. Est-ce que ces géants, donc est-ce que ces hommes gigantesques, auxquels on donne une hauteur de 4 voire plus de 5 mètres pour les plus importants, est-ce qu'ils ont vécu à une époque où tout était géant? C'est-à-dire, est-ce que les hommes, en clair, ont côtoyé les dinosaures? Est-ce que la préhistoire a réellement existé? Il y a une quantité comme ça, des quantités de livres qui existent. Il y en a un qui a été traduit justement cette année, qui en français s'appelle L'erreur de Darwin, et l'auteur est le docteur Zilmer. Et il constate qu'effectivement, au Texas, il y a des traces de pas de géants à côté de traces de dinosaures. Nous remarquons aussi, d'une manière aussi générale, effectivement, avec les drakkars des Vikings, ce sont de gros dragons. On remarque aussi dans l'art pariétal en Australie que les Indiens avaient peint un dinosaure étant chassé par d'autres Indiens. On remarque aussi la mosaïque romaine montrant un dinosaure marin, c'est-à-dire un plésiosaure. On remarque encore sur la porte d'Ishtar en Mésopotamie des dinosaures. Donc, c'est le docteur Marie Schweitzer qui, aux États-Unis, non pas dans la glace mais dans la terre, a déterré effectivement un squelette de dinosaures où la chair était encore, on va dire, souple et les vaisseaux sanguins étaient encore élastiques. Et pour finir avec le fin d'un bateau japonais qui, me semble-t-il, c'était aux alentours des années 79, dans leur filet, ils avaient pris un plésiosaure, donc un dinosaure marin, sur le large des côtes australiennes, ils en avaient sorti un timbre. Donc, on se rend compte que le darwinisme existe non seulement parce qu'il est financé, et ça a été insisté là-dessus, pour établir effectivement cette connivence entre le capital, le grand capital et la pseudo-science, mais aussi parce que, et c'est ce qu'explique très bien avec plusieurs exemples de Dr. Zimmer, il démontre qu'effectivement, les groupes darwinistes, chaque fois effectivement qu'il y a dans l'archéologie des cas d'observation qui dérangent le dogme, et bien ces cas-là ne sont absolument pas pris en compte.
Mm-hmm. Ouais.
Donc voilà où le darwinisme mène, c'est-à-dire que en clair, le darwinisme est véritablement un boulot d'étranglement à l'intelligence.
Très bien. Merci Laurent pour ce développement. Pour continuer sur les faiblesses, les défaillances de la théorie darwiniste, il y en a une quand même très importante, c'est qu'il n'y a pas de preuves, tout simplement. Puisque Darwin postule que toutes les créatures vivantes sont issues les unes des autres, etc., et qu'en partant d'une cellule à la base, le problème c'est qu'il n'y a pas de chaînon manquant.
Oui,
les chaînons manquants n'existent
pas.
Donc la théorie n'est tout simplement pas prouvée.
Il y a eu des chaînons manquants qui ont été inventés.
Oui.
Le cas de Lucie, où il s'agit effectivement d'une mascarade, d'un mensonge éhonté. Il y a eu aussi le cas de l'homme de Java aux Pays-Bas dans les années 1890, où c'était exposé, me semble-t-il, au musée de Leyde. Où on s'est rendu compte, où la personne effectivement qui avait fabriqué ce squelette a reconnu sur son lit de mort effectivement la supercherie.
Mmh. Et souvent les histoires où il y a le crâne qui est humain et puis la mâchoire qui vient d'un singe, des choses comme ça.
Mmh.
Pour pouvoir faire un espèce d'hybride.
Et même ailleurs que chez les lucèdes, il n'y a pas de chaînon manquant, notamment entre les reptiles et les oiseaux. Enfin. Entre toutes les espèces.
Entre les reptiles, je te coupe,
oui.
Parce qu'il y a un cas intéressant.
Il y a eu un montage fameux aussi dans cette affaire.
Il y a un montage tout à fait passionnant, c'était avec l'archéoraptor.
Oui.
C'était, alors voilà, en deux mots, parce que ça vaut quand même son pesant d'or. On a découvert des fossiles montrant le chaînon manquant pour une fois. Entre le dinosaure et un oiseau. Et donc, le musée d'histoire naturelle de Bruxelles avait monté une exposition pendant plus d'un an, dans les années 80, et même le National Geographic avait sorti plus de 10 pages en couleur qui avaient été écrites par son rédacteur en chef, disant voilà, on a trouvé le chaînon montant, on montrait l'archéoraptor sous toutes ses coutures, dirais-je.
Mm-hmm.
Et on s'est rendu compte, hein, que ce que l'on avait annoncé avec tambour et trompette, c'était ni plus ni moins que la superposition de fossiles différents. C'était des paysans chinois, hein, pas tout à fait idiots d'ailleurs, avaient senti la bonne affaire. Et cette supercherie avait été reconnue. Pour le cas du National Geographic, me semble-t-il, ils n'avaient pas sorti 10 pages, quelque chose dans le genre, à ce sujet. Ils avaient sorti quelques lignes dans le courrier des lecteurs pour dire que s'était trompé, enfin, tout ça était une... Mais le problème, c'est que c'est une histoire montée. Mais le problème de tout ça, c'est que le mensonge fait son empreinte, c'est-à-dire que qui sait à l'heure actuelle de l'homme de la rue que Lucy est un faux, que l'homme de Pinau, de Nebraska, ou que l'homme de
Zara... Si elle a rabâché sur la télé, à la radio, je suis sûr que personne ne va
savoir. Que l'homme de Zara, qui a été monté justement, le nom m'échappait tout à l'heure, par Eugène Dubois, qui avait reconnu sa mystification sur son lit de mort. Et d'ailleurs, le squelette avait été rangé dans les placards du musée d'histoire naturelle de l'Aïe. C'est-à-dire que plutôt que de mettre à poubelle, quand même, on s'est dit, bon...
Alors, c'est aussi un fait assez intéressant à souligner, parce que c'est valable pour d'autres mythes, hein, c'est pas uniquement pour l'évolution. Même si au fur et à mesure du temps, voilà, sur le lit de mort, où, on arrive à avoir la preuve que tel ou tel soi-disant preuve, justement, n'était que factice, n'était que bison, il n'empêche que le mythe reste toujours. C'est-à-dire qu'en fait, même si effectivement dans les journées ils vont dire ah oui on a trouvé le faussaire qui avait fait voilà, je sais pas le faux squelette de chenou manquant entre l'homme et le singe, il n'empêche que ce même journal, que les mêmes chaînes de télévision et ainsi de suite vont continuer à marteler la théorie de l'évolution, encore une fois même si des preuves une par une ont été réfutées. Ça, c'est quand même très symptomatique de tous les mythes contemporains.
Le ressenti est là et reste là. Hein.
Voilà.
Je repense au Sélacanthe, justement, ce fameux poisson énorme que l'on trouve dans le Pacifique. Il était jadis présenté, avant qu'on en trouve des spécimens vivants, et était présenté comme un chaînon intermédiaire entre le batracien et le poisson. Donc c'est le genre d'animaux qu'on retrouve, que les évolutionnistes appellent fossiles vivants, et qui les embarrasse bien. Et aussi le cas un peu plus récent d'une espèce de rat géant qu'on a découvert au Laos, et qui était censé avoir disparu depuis des millions et des millions d'années.
Ah,
et comme par hasard, il était comparable aux fossiles. C'est-à-dire qu'il n'avait pas évolué ou très très peu. On parle de résurrection d'animaux dans ces cas-là. Donc voilà, il n'y a pas de chez nous manquant.
Et il n'y a pas de miracle
quand même avant.
Donc ça c'est un peu gênant aussi. Mais ce qui est troublant, c'est que voilà, où nous sommes dans une société qui se dit libre, nous sommes dans une société qui prône effectivement le doute et c'est un doute orienté. Nous n'avons jamais été autant empreints de convictions dont Nietzsche disait que ces convictions sont les dangers mortels pour la pensée, plus mortels que le poison lui-même. Voilà dans quel temps nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire deux gens qui se vêtissent de blouses blanches et qui viennent nous annoncer la vérité de choses effectivement qui appartiennent à des millions d'années, voire des millions d'années de lumière, des choses effectivement dont ils n'apportent jamais la preuve. Et dans cette société où l'on dit que nous sommes libres, où l'on dit effectivement qu'on a droit au doute, eh bien on n'a jamais autant cru toutes ces choses qui ne sont pas prouvées.
On n'a pas le droit de ne pas y croire. C'est tout ça, c'est qu'en fait, ceux qui voudraient justement pouvoir douter librement, ils ont des petits soucis. Il n'y a pas encore une loi pour les évolutionnistes, ceux qui sont contre l'évolutionnisme, mais bon, ça arrivera bien un jour.
Celui qui est scientifique à l'heure actuelle et qui ne va pas dans le sens justement de l'évolutionnisme, a affaire au Bright ou à l'union des rationalistes. Et vous ne pouvez rien faire, vous avez des crédits coupés, ou alors vous êtes en
venue de voir comme des heures. Les chercheurs sont foutus de heures.
Nous pourrons revenir à ce que vous disiez juste avant. Enfin, que les gens ont besoin de toujours croire en quelque chose. Donc s'ils ne croient plus en la vérité, ils ne vont pas se mettre à croire en rien, ils vont se mettre à croire en n'importe quoi. Donc ils se réfugient dans la théorie évolutionniste, puisque le reste a été sapé, a été détruit. Je ne sais plus que les scientifiques fameux qui disaient que l'évolutionnisme est un conte de fées pour grandes personnes. Et pour terminer sur cette histoire de chaînon manquant, imaginons que l'on trouve, par exemple...
Il y a des contes de fées pour une personne encore, mais qui appartiennent à l'histoire et on ne dira rien.
Oui.
Parce qu'on veut que drôle.
Je ne trouve pas ça tellement féerique.
C'est pas féerique, mais c'est tout au moins aussi subtil encore une fois d'inventer des choses.
Ils ne sont pas désintéressés.
C'est pas désintéressé, mais on retrouve encore le grand capital derrière.
Forcément.
Mais on ne dira pas plus parce qu'on n'est pas en prison ce soir.
Pas ce soir, on a des choses à faire demain.
Voilà.
Bon, imaginons que l'on trouve des traces d'un reptile à plumes, qui serait donc un chaînon manquant entre les reptiles et les oiseaux. Ça ne prouverait rien en soi, parce que...
Le serpent peut se déguiser lui aussi, ça peut être carnaval.
Oui.
À la rigueur, non,
c'est pas exactement. Quel est le cas de l'ornithorynque? C'est un mammifère qui possède un bec. Donc on pourrait le considérer à la limite comme un chaînon entre telle et telle espèce, tel et tel genre.
Oui.
Donc, et pourtant ce n'est pas le cas. Donc même si on retrouvait les traces, les fossiles d'un reptile avec des plumes, rien ne prouverait que ce soit un chaînon manquant entre les reptiles et les oiseaux.
Pour l'anecdote, je crois que quand les premiers ornithorynques ont été rapportés en Angleterre, tout le monde a cru à un fake, hein, tout le monde a pensé que c'était justement, encore une nouvelle fois, un montage complet, quoi. Mmh.
Enfin, mais Paul, si tu peux montrer, on peut pas, mais parce qu'on est seulement au micro, la télévision ne nous a pas invités, et nous invitera d'ailleurs jamais, même celle qui se présente catholique. Tu montrais tout à l'heure, on avait sur la table la photo de Darwin quand il était jeune. Voilà un cas d'évolution extraordinaire entre le voyou et le scientifique. Hein. Il faut voir la photo de Darwin lorsqu'il avait 30-40 ans. On comprend maintenant pourquoi les livres ne l'exposent jamais.
Et une tête de brute, de primate.
Alors, on peut le dire aux auditeurs. Les auditeurs ont Internet, donc ils peuvent aller sur Wikipédia. Et donc, en tapant Charles Darwin, à la 7e page.
La 7e, déjà.
Voilà, vous pourrez voir la tête de Darwin quand il a publié... son livre sur l'évolution des espèces, et ben, vous verrez qu'il a vraiment une tête très sympathique.
Mais il faut arriver à la 7e page. Ouais, ils ouvrent avec
le vieillard, le savant,
la
grande barbe, mais quand on creuse un petit peu et qu'on voit un petit peu la tête qu'il avait quand il a publié le bouquin, on voit que ouais, il a une bonne tête de bandit, quoi.
Donc pour en revenir au sujet plus précisément des failles et des faiblesses du darwinisme, on a vu que c'est une théorie qui n'est pas prouvée, il n'y a pas de preuves. Alors non seulement il n'y a pas de preuves, mais en plus il y a tout un tas de contradictions et d'incohérences. Des questions que le darwinisme ne peut pas résoudre.
On va
ouvrir le festival, parce qu'il y en a pas mal.
On l'a vu tout à l'heure, notamment la formation des espèces et la sélection naturelle en même temps.
Oui.
À savoir que donc, les mutants, la mutation comme cause de création de nouvelles espèces est un petit peu antinomique avec le phénomène de sélection naturelle.
Oui, très concrètement. Par exemple, comment est-ce que les branchies d'un poisson auraient-elles pu se transformer en poumons pendant la lente transformation? Comment est-ce que l'animal aurait fait pour respirer, par exemple?
C'est un scarabée, qui s'appelle le bombardier. Il a deux poches. Le cap peut effectivement prêter à sourire, mais c'est tout à fait réel. Les gens effectivement qui veulent attaquer l'évolutionnisme parlent du bombardier. Il s'agit d'un scarabée qui a deux poches de glace à l'arrière de son dos, et si ces deux glaces se mélangent, c'est un mélange explosif. Et donc on se demande comment, dans un cas d'évolution, ces deux poches auraient pu. Le cas est tout à fait sérieux, hein. Il faut regarder le bombardier. Et on se demande comment ces deux poches auraient pu... comment déjà le bombardier aurait pu arriver à ce stade-là avec ces deux poches.
Sans sauter.
Ouais. Mais c'est tout à fait un cas que reprennent bien souvent les créationnistes, justement, ou les gens qui croient la science biblique, etc.
Mmh. De toute façon, ce fait-là, le fait de penser effectivement qu'il y a une mutation due au hasard puisse amener à un autre animal, c'est complètement fou, encore une fois.
Autre exemple, comment est-ce que l'os articulaire et l'os carré de la mâchoire des reptiles se seraient transformés en enclume et marteau de l'oreille, vous savez, les petits os de l'oreille, que possèdent les mammifères, et donc pendant des siècles et des millénaires, comment aurait-il fait, soit pour manger, soit pour entendre, avec ces os qui sont censés remplir les deux fonctions, chez l'un ou chez l'autre? Autre question, comment est-ce que lisait par exemple l'araignée avant de savoir tisser sa toile? Comment est-ce que les chauves-souris faisaient sans leur radar acoustique? Donc il manque des milliers de formes intermédiaires à Darwin et à sa théorie.
Mais en plus, quand il y a une transformation de l'espèce, comme dans le cas du milieu, on se rend compte que cette espèce ne peut pas se reproduire.
Voilà. Et les mutants, hein, ou les croisements, sont souvent infertiles, ils ne peuvent pas... Ça, c'est une règle.
Voilà, donc j'ai donc des milliers de formes intermédiaires à Darwin. Par exemple, les chauves-souris sans radar ou avec des ailes incomplètes, évidemment, on n'en trouve aucune trace. Ou alors des araignées qui seraient des poils inachevés, donc évidemment, c'est impossible aussi. Autre cas intéressant, c'est celui des symbioses entre animaux. Vous savez qu'il y a des poissons, des prédateurs extrêmement voraces qui sautent sur tous les petits poissons qui passent à portée de leur bouche. Eh bien, certains d'entre eux possèdent des petits poissons nettoyeurs qu'ils laissent entrer parfois même dans leur bouche. Et bien, d'un point de vue évolutionniste, c'est tout à fait improbable, impossible.
Il faut voir un petit peu dans quelles circonstances, enfin, quelles ont été les soi-disant constats scientifiques de Darwin pour élaborer sa thèse. Lui, il dit, en fin de compte, de ce qu'il a vu sur l'île de Pâques, il a vu que des espèces d'animaux qui pouvaient exister plus ou moins en Angleterre étaient sur l'île de Pâques légèrement différentes, ou bien un peu plus grosses, ou bien avec un pelage ou des plumes un petit peu, une couleur un petit peu différente, pour mieux s'adapter au climat de l'île de Pâques. En fait, Darwin a constaté des micro-évolutions, et de ces micro-évolutions, lui, il en a conclu des macro-évolutions, c'est-à-dire en raison de changements infimes, le fait que, par exemple, le animal puisse s'adapter à son milieu naturel, mais de façon, très 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 légère, lui, il a porté la conclusion qu'on pouvait carrément changer d'une espèce à une autre.
Ouais.
Et plus du tout, dans le scientifique, c'était plus du tout la même chose.
Vous n'avez rien à voir. Personne ne nie aujourd'hui les micro-évolutions.
Voilà, personne ne nie les micro-évolutions, le fait que l'organisme vivant ait la capacité, dans une certaine mesure, de s'adapter au climat et à leur milieu naturel, et le fait de pouvoir changer d'espèce, la macro-évolution, ça n'a rien à voir.
Oui, et puis il y a un tas de questions qui restent sans réponse. L'exemple de l'œil, qui est assez fameux. Comment est-ce que l'œil composé d'un insecte peut se transformer en l'œil d'un mammifère? Pendant des millénaires, c'est-à-dire que les intermédiaires n'auraient pas pu voir. C'est tout à fait impossible. D'ailleurs, Darwin lui-même disait...
Il n'y a pas un film comme ça, la mouche, ça, où il y a...
Je sais pas. En tout cas, Darwin disait, quand je pense à l'œil, j'en ai la fièvre. Donc aujourd'hui, 150 ans plus tard, qu'est-ce qu'il dirait? C'est un point de délire, parce que avec les progrès fulgurants de la biologie, et de la génétique en particulier, on se rend compte que l'œil est quelque chose d'extraordinaire, un caméscope ultra sophistiqué, et donc ça rend encore plus improbable sa théorie.
Mais il y a aussi une chose dont je voulais parler, qui est assez récurrente quand on parle avec des pauvres gens dont le cerveau a été un petit peu lavé par la télé, qui est, je ne sais pas si on l'a déjà dit, alors, comment tu expliques qu'en fait, au début du siècle, les hommes étaient plus petits, et plus ça va, plus les générations vont, et plus les hommes sont grands. Et ça, c'est symptomatique, et je pense que c'est assez récurrent comme sort.
Il n'y a rien de prouvé là-dessus, justement, mon livre sur les géants le démontre.
Oui, puis il y a aussi une chose, moi ce que je réponds toujours, c'est que... ça c'est une preuve de, comment dire, la limite de micro-évolution, à savoir que si on est plus ou moins nourri, on va plus ou moins grandir. Il est évident que la personne qui est faite en temps de guerre ou de pénurie, où l'enfant n'a pas assez à manger pour se développer, forcément, il ne va pas atteindre la taille qu'il aurait eue s'il avait eu tout le long de sa croissance la nourriture suffisante pour atteindre sa taille. Et l'autre exemple, c'est par exemple, on a quand même des preuves, on a quand même des restes de, comment dire, des hommes vivant à l'Antiquité, ne serait-ce que grâce aux vestiges qui restent de l'Antiquité, les statues,
les momies.
Les momies. On voit bien que quand on dit que même à l'époque des Romains, il y avait des gens qui faisaient 1m80. Donc en fait, quand...
Et tu prends le cas de Charlemagne, c'était plus de 2 mètres, je crois.
Charlemagne.
Et donc il avait un chaussier, je crois qu'on appelait ça comme ça.
Donc si on devait grandir à l'infini, on devrait faire 10 mètres à l'heure actuelle, je ne sais pas. Quoi, c'est...
Mmh. existe aussi comme le cas des dents de sagesse, c'est un argument qu'on entend souvent. D'où viennent ces dents de sagesse qui ne servent à rien actuellement, etc. Ça serait un vestige de...
Ou alors,
de quel poisson.
Le coccyx aussi. Le coccyx, c'est la queue qui nous reste. On pense des choses. Alors, c'est pas possible, quoi.
En réalité, les scientifiques les plus sérieux aujourd'hui concernant les dents de sagesse considèrent que c'est une micro-évolution qui est tout à fait réversible et qui est due, comme tu le disais, sur la taille, aux conditions notamment alimentaires. Voilà, les nourrissons ont affaire à des tétines de plus en plus molles, etc. Donc la taille de la mâchoire rétrécit, il y a moins de place pour que les dents de sagesse puissent sortir. Mais ça, c'est ce phénomène des dents de sagesse qui ne sortent plus vraiment, en tout cas chez un certain nombre de personnes, c'est un phénomène plus récent qui remonte à une centaine d'années et qui serait tout à fait réversible. Donc c'est une fausse preuve.
Pourtant, là, pour une fois, déjà que là, pour le coup, et comment dire, les découvertes scientifiques nous ont quand même apporté des choses, notamment par rapport à tout ce qui est la génétique, pour savoir qu'on a, tous une carte génétique. Et tout ce que nous sommes est déjà inscrit dans notre carte génétique. Et le fait que ça se développe ou pas, c'est en fonction, effectivement, du milieu où on vit. Mais effectivement, même quelqu'un, un couple de fumeurs a des enfants, même s'il a fumé toute sa vie et que les poumons sont atrophiés, et ainsi de suite, ça ne va pas du tout faire que l'enfant, lui, va naître avec un tout petit poumon ou quoi que ce soit. Puisqu'en fin de compte, les parents vont transmettre une carte génétique qui est avec des poumons normaux. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, la carte génétique, elle ne change pas, quelles que soient les habitudes, quelles que soient les habitudes alimentaires, toutes les habitudes qu'on peut avoir, ça ne change en rien notre carte génétique.
Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hérédité de caractère acquis. Par contre, il peut y avoir quand même des petites mutations génétiques spontanées de temps en temps. C'est des cas de gens qui naissent, par exemple, avec des malformations, ce genre de choses.
Tout à fait. Et ça, c'est ça rentre dans
le... C'est un autre cas, en fait,
quand même.
Oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur cette question des failles, des faiblesses, du darwinisme?
Moi, il me semble qu'on a tout dit. Du moins,
en tout cas, on en a assez dit.
Tout dit, c'est pas sûr.
Je pense qu'on en a assez dit. Je pense qu'on en a assez dit pour au moins intriguer nos auditeurs, et donc je les incite, si ce sujet les a intéressés, à creuser un petit peu. Il y a d'excellentes publications, des livres, des revues comme celle du CEP, Centre d'études de prospective sur la science, vous pouvez trouver ça facilement sur Internet, qui publie de nombreuses études très intéressantes. Il y a aussi la revue Fidélitaire, qui est éditée par la Fraternité Saint-Pédis en France, qui vient de sortir un numéro consacré au darwinisme, avec un dossier très épais, très consistant et très intéressant sur la question. Donc si ça vous intéresse, je vous invite fortement à vous le procurer.
Il y a aussi le sécher, qui a effectivement travaille contre le darwinisme, qui expose les théories de Terminant Combat.
Voilà. Je dois préciser quand même que ce sont des théories qui suscitent parfois des polémiques dans les milieux de la tradition catholique. Mais bon, c'est un autre débat. J'invite chacun à se renseigner et à faire preuve d'esprit.
En tout cas, en France, nous avons le cercle et le sécher. La dernière revue de Fidélitaire, c'est déjà beaucoup.
Oui, tout à fait. Donc, une petite conclusion sur ce sujet du darwinisme. Moi, ce que je dirais, c'est que 150 ans après l'œuvre de Darwin et 200 ans après Lamarck, les transformistes, ceux qui sont partisans de passage d'une espèce à une autre, n'ont toujours pas fait la démonstration scientifique de leur théorie. C'est une théorie avant tout idéologique, qui est issue d'une certaine philosophie et qui est là pour la soutenir. L'idéologie du progrès et l'idéologie naturaliste ou matérialiste. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter?
Oui, justement, pour rebondir là-dessus, moi j'avais un petit mot à dire, donc là c'est plus politique. Dans les nombreuses composantes de ce qu'on appelle la droite nationale ou des nationalistes, il est intéressant quand même de noter que le fameux courant de la nouvelle droite est darwinienne à 100%. Hein, le pape de la nouvelle droite, tout le monde le sait, c'est Alain de Benoît. Et bon, bah, de Benoît, donc, que ce soit dans son fameux livre Vue de droite, mais dans d'autres de ses écrits, de Benoît, bien évidemment, est complètement dans l'idéologie maçonnique dominante, et donc il est à fond évolutionniste. Autre personnage évolutionniste aussi à fond, c'est Pierre Vial. Hein, il faut quand même être conscient de ça, c'est que tout le courant néo-païen est complètement imprégné de cet évolutionnisme darwinien. Et à ce sujet, donc c'est assez logique, je voulais faire un petit peu une parenthèse sur justement les origines, du néopaganisme. Et parce que là, historiquement, c'est assez intéressant. Donc, comme on l'a vu, le bouquin de Darwin sur l'évolution des espèces date de 1859, et donc deuxième moitié du 19e siècle. Et le néopaganisme, qui a commencé par le néo-druidisme, même s'il y a eu le précurseur au 18e, c'est surtout le 19e siècle qui a vraiment été forgé, qui a été lancé. Et la rhétorique est la suivante. Les néo-païens étaient les tenants donc de la mémoire la plus longue. D'ailleurs, c'est le terme qu'utilisent actuellement les néo-païens comme Dial et les autres. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, on voit vraiment l'influencisation de cette doctrine qu'est le darwinisme. À cette époque-là, au 19e siècle, les gens encore étaient attachés à leur tradition, ils étaient attachés notamment donc, au christianisme, ils étaient attachés donc à la religion de façon héréditaire, c'est-à-dire qu'on était chrétien, on était catholique, parce que de père en fils en France, on était catholique, toute notre histoire, toute notre civilisation était complètement était complètement imbibé, était profondément relié à la religion. Et c'est à cette époque que dans les loges maçonniques, on a eu une superbe idée qui était pour pouvoir couper l'arbre sur le pied par rapport à ce côté, ce lien charnel de père en fils, la religion de nos pères qu'avait la religion chrétienne. On s'est dit, oui, mais il faut trouver quelque chose pour un petit peu couper le peuple de ses origines chrétiennes-là pour pouvoir mieux battre en brèche la religion chrétienne. Et ils ont trouvé cette super idée qui est le néopaganisme en disant, oui, mais avant d'être chrétien, vous étiez quoi? Et c'est pour ça qu'au 19e siècle a été lancé le mouvement néo-païen. En disant, voilà, alors nous on est encore plus attachés à nos racines que vous, parce que nous on se réfère à la religion des Gaulois. Alors qu'à l'heure actuelle, toutes les recherches, tous les chercheurs sérieux ont admis que les néo-païens, ceux qui se déguisent dans la forêt et qui font des rituels, les néo-zoules et tout, il n'y en a pas un seul qui en fin de compte aurait reçu un enseignement traditionnel venant de l'époque gauloise. Tout le monde sait qu'en fait, voilà, ce sont des gens qui se réunissent, ils s'autoproclament druides, ils font deux, trois cérémonies rituelles qui n'ont aucun sens, et c'est complètement logique, c'est complètement bidon. Mais voilà, c'est toujours cette volonté de, sous prétexte d'avoir une mémoire la plus longue, on organise une supercherie et on coupe le peuple de ces traditions les plus directes. Voilà, donc ça me paraît très important de mettre ce point là-dessus, parce que ça me paraît quand même très très grave d'oser se proclamer des traditions des traditions ancestrales, alors qu'en fait ce n'est que de la supercherie, et c'est surtout qu'une manœuvre maçonnique, une de plus, pour détruire la vraie religion.
Oui, d'ailleurs, la Bible répond sans trop s'étendre sur le sujet, mais la Bible donne effectivement une piste tout à fait intéressante avec un des trois fils de Noé, qui s'appelle Cham, qui est le fils réfugié parce qu'il se moque de son père. Noé s'est poussé une vigne à la sortie de l'arche. Peut-être qu'on ne connaissait pas l'effet du vin, en tout cas, bon, il est sous et il est à moitié nu ou nu, et son fils se moque de lui. En tout cas, il est répudié, Cham est répudié, il va donner toute une lignée donc, de descendants dont le fils, notamment Neptune, qui va donner Neptune, etc., etc. Notamment des dieux, des faux dieux, on va dire, puisque certains, effectivement, sont donnent la lignée des premiers pharaons. Donc, ces dieux païens, les paganistes, effectivement, enfin, bon, je ne veux pas trop parler de ça, parce que c'est pas...
d'inventer toute pièce, des rites, des cérémonies, et que sais-je, dans un but purement politique ou anti-religieux, qui était de couper le peuple de leurs racines religieuses. Mais voilà, c'est ce côté intox. C'est une croquis au même titre que les pseudo-squelettes du chaînon manquant ou ainsi de suite. C'est toujours quelque chose qui est vraiment...
Et qui s'appuie encore une fois sur les longues datations, sur les millions d'années. Or, il suffit encore une fois de prendre l'astronomie, de regarder... on peut prendre le cas de la Lune, hein, on prête un âge quasiment équivalent à la Lune qu'à celle de la Terre, et quand on remarque effectivement l'épaisseur de poussière qu'il y a sur la Lune, on voit très bien que la Lune a mis 2 millions d'années, et encore moins de milliards d'années, et on pense à une ancienneté, je pense qu'il se déverse quelque chose de comme 14 milliards de tonnes de poussière, on va dire, cosmique sur la Lune par an, et à ce rythme-là, donc, on donne une ancienneté de 10 000 ans à la Lune. On pourrait parler du satellite Io aussi, de Jupiter, qui est bombardé chaque 6 minutes, quelque chose comme ça, par la planète Jupiter. Io a une surface cristalline, et si Io avait effectivement 10 milliards d'années, cette surface ne serait plus. Et en même temps, Io a une activité volcanique qui est telle que même les pleins de volcans sortent de son attraction, on va dire, satellitaire ou lunaire, je ne sais pas comment on peut. Il y a X et X, il y a plein de le soleil aussi, le diamètre du soleil qui divise 1,50 m par heure, me semble-t-il, oui, par heure. Il est impossible avec cette moyenne, effectivement, de donner des milliards d'années au système solaire. Et il y a plein de cas, effectivement, qui démontrent que le taux d'hélium aussi dans l'atmosphère, qui démontrent que la Terre n'a pas de milliards d'années, ni de millions d'années, et qu'elle pourrait effectivement avoir bien moins que cela.
Mmh. Très bien. Bon, je vous remercie, messieurs, de nous avoir fait part de votre avis sur toutes ces questions intéressantes. J'espère que la boîte courriel de Radio Résistance ne va pas être saturée de messages d'insultes de nos auditeurs néo-païens. En tout cas, merci Paul Thor, merci Laurent Glosi. Oui, un petit mot sur tes livres avant la fin, quand même. Le premier livre que tu as publié s'intitule Le mystère de la race des géants à la lumière du créationnisme. Je pense qu'on a brièvement survolé le sujet tout à l'heure.
Le livre parle effectivement des géants. L'origine des géants, comment sont-ils apparus, pourquoi et comment sont-ils disparus, quels vestiges ont-ils laissé sur la Terre, est-ce qu'ils ont laissé effectivement une civilisation, je dirais, intelligente aussi derrière eux, voilà des questions effectivement qui renvoient encore une fois à la destruction du mythe de la préhistoire, parce que la préhistoire serait bel et bien un mythe qui servirait effectivement les thèses du darwinisme.
En tout cas, c'est un livre original qui a le mérite de poser des questions intéressantes et qui sortent un petit peu du conformisme ambiant. Deuxième livre que tu as publié, celui-ci tout récemment, qui s'intitule L'extraterrestre, les messagers du New Age. Oui, celui-ci, je ne l'ai pas encore lu, je te laisse le présenter en quelques mots.
Alors, c'est un livre effectivement qui dément les théories de l'ufologie, c'est-à-dire que ça démontre dans un premier temps pourquoi les extraterrestres n'existent pas. Pourquoi justement si tous ces gens qui défendent l'ufologie, ils ne prennent jamais effectivement en considération l'existence des anges dans l'univers, c'est-à-dire qu'ils sont toujours prêts à imaginer tout sauf effectivement encore une fois ce qui pourrait appartenir au premier sens, c'est-à-dire à des anges. Ce qui est tout à fait intéressant aussi, c'est que les noms que l'on donne à certains extraterrestres, comme Astaroth, Astarté ou autres, appartiennent à des noms de démons de la civilisation de Sumer. Et on remarque aussi que la culture ufologiste donc, a été fomentée par la CIA pour notamment cacher un armement secret. Donc moi je pars effectivement d'une analyse qui est de dire que les extraterrestres n'existaient pas. Qu'est-ce qui se cache derrière tout cela? Parce que même on peut parler hein, du Rockefeller, on parlait du Rockefeller avec Darwin, mais les Rockefeller ont financé Mme Galbraith, qui était l'épouse de l'ambassadeur américain en France, pour recenser les scientifiques qui faisaient des études sur les soucoupes volantes dans le monde. Donc ce livre effectivement travaille, ou du moins remet à l'endroit certaines choses, et comme je critique, comme je dis que les étoiles n'existent pas, je suis obligé aussi d'expliquer, c'est mon dernier mot sur ce sujet, je suis obligé d'expliquer autrement ce que sont les crop circles ou les abductions, c'est-à-dire des gens qui prétendent avoir été kidnappés par des extraterrestres. Or, aux États-Unis, c'est assez intéressant de remarquer que des psychologues ont plongé en état d'hypnose effectivement des gens qui prétendaient avoir été abductés, et ils remarquent donc que ces gens racontent des choses qu'ils ont, des choses qu'ils auraient vécues. Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais ramené de souvenirs de soucoupes volantes. Donc on peut penser encore une fois c'est la théorie du monde, du moins le monde parle de ça dans son article publié en 2008, d'une méthode pour implanter des faux souvenirs dans la mémoire des gens. Plus ni moins.
D'accord, voilà. C'est très intéressant. Moi, ça me fait penser, le fait qu'on retrouve ce mythe des extraterrestres un peu partout, poussé notamment par des films de science-fiction venus d'Hollywood, ça sert parfaitement le jeu des acteurs du mondialisme, parce que ça donne un peu un ennemi commun, hein, c'est l'idée, ça imprègne l'esprit des gens, s'il y aurait un ennemi commun extraterrestre face auquel il faudrait s'unir, toute l'humanité presque une, face à quelque chose de différent, donc ça sert la progression du mondialisme.
Clinton, c'est intéressant parce que Clinton effectivement allait dans ce sens, il parlait d'un ennemi commun en parlant des extraterrestres. En tout cas, je ne veux pas dévoiler effectivement le cœur de mon livre, mais on est en train d'assister, alors qu'on nous rabat les oreilles avec un 2012, avec des informations absolument invérifiées. Il est intéressant de remarquer, et c'est là où les catholiques pourraient bien mieux de travailler aussi sur ce sujet-là, les extraterrestres vont, je pense, arriver, vont débarquer, mais non pas avec des soucoupes volantes, mais avec une nouvelle religion. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un sujet anodin, mais ni plus ni moins de la création d'une nouvelle religion qui va supplanter les précédentes, et je dirais même la seule et vraie religion, surtout. Parce que c'est le but, quand nous sommes encore dans un plan de déchristianisation.
Très bien. Alors, je précise qu'on peut se procurer ces deux bouquins sur le site internet de Patriot Productions, que nos auditeurs connaissent bien, et puis aussi peut-être par voie postale, tu as une adresse à nous donner, Laurent?
Oui, donc le premier livre, Le mystère de la race des géants, est de 16 euros, et de 20 euros pour le second livre, donc le Patriot des messages du New Age. Moi, mon adresse, c'est donc Laurent Gozy, GLAUZY, DP25, 91-151, et Temple CEDEX.
Parfait. Merci messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir, à bientôt.
Merci à Manu qui était à la technique et que vous n'avez pas entendu. Une petite adresse courriel si vous voulez nous faire parvenir des messages, des critiques, des commentaires, des remarques. contact@leritage.net. Merci à tous, à bientôt.